Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du 28 juillet 2015, à la une ce soir.
Dans un discours à Addis Abeba, le président américain a fait l'éloge de la démocratie pour tous, non sans aborder l'épineux cas du Burundi.
When a leader tries to change the rules in the middle of the game just to stay in office, it risks instability and strife. As we've seen in Burundi.
Barack Obama, que nous entendrons tout à l'heure dans un dossier d'Idrissa Seydoudia.
En Libye, un tribunal contrôlé par les islamistes a condamné à mort un fils de Muammar Kadhafi et 8 dignitaires de l'ancien régime.
La lutte contre Boko Haram bat son plein dans la région du lac Tchad et dans l'extrême nord au Cameroun.
En République du Congo, c'est demain que s'achève le dialogue alternatif de l'opposition qui a boycotté celui du président Denis Sassou Nguesso.
Les choses sont claires, il n'y a pas un conflit pour le moment, mais il faudrait que le président Sassou respecte la loi.
Tatan Tommy, délégué général chargé de la promotion de la paix.
L'Iran et l'Union européenne se disent prêts à mettre en œuvre les termes de l'accord sur le nucléaire iranien, tandis qu'à Washington, le secrétaire d'État John Kerry a exhorté le Congrès à ne pas rejeter l'accord de Vienne.
Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Dans un discours concluant sa visite historique au Kenya et en Éthiopie, le président Barack Obama a donc prononcé un discours au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Il a souligné les progrès extraordinaires réalisés en Afrique, tout en notant que de tels progrès ne peuvent continuer que grâce au développement et à la démocratie pour tous. Monsieur Obama a également abordé les problèmes d'actualité tels que le terrorisme, la corruption, la question du troisième mandat présidentiel, le Mali, la RCA, le Soudan du Sud et le statut des femmes et des jeunes filles. Des précisions avec Idrissa Seydoudia.
D'emblée, le président Obama a tenu à souligner ses propres racines africaines. Je suis ici devant vous comme un fier Américain. Je suis aussi ici devant vous en tant que fils d'un Africain. Par ces mots, M. Obama a souligné son intérêt personnel dans le développement et la croissance économique continue du continent. Il s'est félicité de progrès allant d'un plus faible taux de nouvelles infections au VIH aux millions d'Africains arrachés à la pauvreté. Parlant du rôle des États-Unis, il a mis en exergue les efforts pour booster le commerce ainsi que les initiatives américaines axées sur la sécurité alimentaire, un accès accru à l'électricité ainsi que le soutien à l'entrepreneuriat africain. Il a aussi appelé le monde à changer de regard sur l'Afrique et à bâtir de véritables partenariats avec elle. Sans mentionner spécifiquement la Chine, M. Obama a insisté sur ce qui différenciait les investissements américains en Afrique.
Economic relationships can't simply be about...
Les relations économiques ne peuvent pas être simplement une question d'autres pays construisant des infrastructures avec une main-d'œuvre étrangère ou l'extraction des ressources naturelles du continent. Le réel partenariat économique doit être une bonne affaire pour l'Afrique. Il doit créer des emplois et des capacités pour les Africains. M. Obama a tout de même reconnu que les bases de ces progrès restent fragiles avec des centaines de millions d'autres Africains vivant encore dans une pauvreté extrême sans accès à des infrastructures de base. Et il est revenu sur le cancer de la corruption. Ce n'est pas unique à l'Afrique. La corruption existe partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Ici en Afrique, la corruption vole des milliards de dollars à l'économie, des fonds qui peuvent être utilisés pour créer des emplois et construire des hôpitaux et des écoles. Quand quelqu'un doit verser un pot de vin juste pour lancer un business, aller à l'école ou obtenir d'un officiel qu'il fasse le travail qu'il est censé de toute façon faire, ce n'est pas africain, c'est saper la dignité des gens que vous représentez. Le président américain a cependant exprimé de l'espoir quant au pouvoir de changement de la jeunesse africaine et aux promesses de la nouvelle technologie. Et il a parlé du YALI, l'initiative américaine dite des jeunes leaders africains. M. Obama a été applaudi quand il a ensuite dit que le progrès en Afrique dépendait de la démocratie, mais que cela ne signifiait pas seulement la tenue d'élections formelles. Elle est vide de toute substance, cette démocratie, quand on emprisonne des journalistes parce qu'ils font leur travail et quand on sévit contre la société civile, a-t-il souligné. L'auditoire a éclaté de rire quand M. Obama a dit ne pas comprendre les leaders africains qui refusent de s'en aller à la fin de leur mandat, notant que son propre temps à la Maison-Blanche touchait à sa fin. Et il a exhorté l'Union africaine à insister énergiquement sur le respect des limitations du nombre des mandats et des constitutions.
But the law is the law. And
la loi est la loi et personne n'est au-dessus, même les présidents. Il est convaincu qu'il pourrait gagner encore, mais il attend avec impatience sa vie après la Maison-Blanche, qui lui permettra de passer plus de temps avec sa famille, trouver de nouvelles manières de servir et visiter beaucoup plus l'Afrique. Quand un leader tente de changer les règles au milieu de la partie, simplement pour rester en poste, il risque de créer l'instabilité et la discorde, comme nous l'avons vu au Burundi. Si un dirigeant pense être le seul capable d'unir sa nation, alors ce dirigeant n'a pas réussi à réellement bâtir son pays. Nelson Mandela et George Washington ont laissé un héritage durable en quittant leurs fonctions et en transmettant le pouvoir pacifiquement, a encore souligné M. Obama. Concernant le terrorisme, le président américain a souligné que l'Amérique se tenait aux côtés de l'Afrique. De la Somalie au Nigeria, au Mali et en Tunisie, des terroristes continuent de cibler des civils innocents. Beaucoup de ces groupes se réclament, selon eux, de la religion, mais des centaines de millions de musulmans africains savent que l'islam signifie la paix. Pour M. Obama, on doit désigner Al-Qaïda, le groupe État islamique, Al-Shabaab et Boko Haram par ce qu'ils sont. Des meurtriers. Il a rappelé les progrès faits en Somalie contre Al-Shabaab, en Afrique centrale contre la LRA et dans le bassin du lac Tchad contre Boko Haram par plusieurs pays de la région. Mais le président américain estime que la bonne gouvernance et l'état de droit font partie intégrante de ce combat contre le terrorisme qui exploite les insuffisances dans ce domaine. Barack Obama, qui est père de deux filles, a par ailleurs insisté sur les opportunités pour les femmes et les jeunes filles et l'abandon des traditions qui leur nient leurs droits fondamentaux, tels que les mariages forcés ou précoces ou la mutilation de leur corps.
Merci Idrissa Seloudia. En Libye, un tribunal a condamné à mort un des fils de Muammar Kadhafi et 8 dignitaires de l'ancien régime. L'ONU a dénoncé ces condamnations. Claire Morin-Gibourg.
Le verdict est sévère. Sur les 37 prévenus, 8 écopent de la peine de mort, dont le dauphin et fils préféré de Muammar Kadhafi, Saïf al-Islam, après un procès de 16 mois éclipsé par les violences et les divisions politiques. Le tribunal a également condamné à mort le dernier premier ministre de Kadhafi, Baghdadi al-Mahmoudi, et son ex-chef des services de renseignement, Abdallah Senoussi. Le procès a eu lieu à Tripoli, où règne la coalition de milices islamistes de Fajr Libya, qui a établi un gouvernement et un parlement non reconnus par la communauté internationale. Saïf al-Islam et les 36 autres prévenus étaient jugés pour leur rôle dans la répression meurtrière de la révolte ayant mis fin à l'ancien régime en 2011. Ils étaient poursuivis pour assassinat, pillage et sabotage, actes portant atteinte à l'Union nationale, complicité dans l'incitation au viol et recrutement de mercenaires africains. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme et plusieurs ONG ont déploré ces condamnations à mort, dénonçant l'absence de procès équitable. Seuls les condamnés à mort peuvent faire appel du verdict en vertu du droit libyen, les peines de prison étant applicables immédiatement.
Lutte contre Boko Haram, l'armée tchadienne poursuit ses opérations contre les djihadistes sur le lac Tchad, tandis que l'armée camerounaise envoie des renforts dans l'extrême nord. Des précisions avec Nicolas Pinault.
Quelques 2000 soldats supplémentaires seront déployés pour lutter contre Boko Haram dans cette région en proie à une vague d'attentats suicides. La radio d'État Cameroon Radio Television n'a pas donné de précision sur la date de ce déploiement. Il portera officiellement à 8500 le nombre de soldats envoyés dans cette région pour combattre les djihadistes de Boko Haram qui y mènent depuis 2 ans. Des raids meurtriers et des enlèvements. Demain, le président nigérian Muhammadu Buhari se rendra à Yaoundé pour rencontrer son homologue Paul Biya. Le déploiement de la force d'intervention conjointe multinationale avait été annoncé d'ici jeudi. Cette force régionale aura son siège à N'Djamena et doit compter 8 700 militaires, policiers et civils fournis par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin. Lundi, l'Union européenne a exprimé son soutien aux opérations lancées contre Boko Haram. Et par ailleurs, ce mardi, l'armée tchadienne poursuit sa vaste opération sur des îles du lac Tchad, notamment au sud-est de Bagassola, l'une des principales villes tchadiennes du lac.
Dans le reste du monde, nucléaire iranien, l'Union européenne et l'Iran se disent prêts à mettre en œuvre tous les termes de l'accord conclu à Vienne le 14 juillet dernier. Une rencontre a eu lieu à Téhéran entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue de l'Union européenne.
Et à Washington, le secrétaire d'État John Kerry a exhorté les sceptiques au Congrès à ne pas rejeter l'accord de Vienne. C'est un bon accord pour le monde et pour les États-Unis, a déclaré M. Kerry ce mardi devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre basse.
Au Yémen, les raids aériens de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont repris ce mardi, mettant fin à une trêve humanitaire censée durer 5 jours.
En Syrie, le groupe État islamique subit un autre revers face à une coalition de l'armée de Bachar al-Assad et des forces kurdes.
Les djihadistes ont perdu à saquer face aux Kurdes et aux soldats syriens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Et un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Camille Gros-Didier.
Le gouvernement ivoirien a dévoilé les derniers chiffres de la filière Anacard, culture phare de l'agriculture en Côte d'Ivoire avec le café et le cacao. Le pays a enregistré une production de 625 000 tonnes de noix de cajou durant l'année 2015 pour une recette de 337 milliards de francs CFA, signalent les autorités. Selon Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement ivoirien, le chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière noix de cajou est passé de moins de 200 milliards de francs CFA en 2013 à 337 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 68% pour un accroissement de volume sur une période de l'ordre de 25%. Dans le même temps, les revenus distribués aux producteurs sont passés de 75 milliards de francs CFA à 256 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire espère bien rattraper et détrôner l'Inde, numéro un mondial de cette filière actuellement. Et puis, selon Radio Okapi, des bailleurs de fonds américains sont engagés à investir dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Lors d'une visite dans la région, ils ont signé un partenariat avec le gouverneur intérimaire sortant, Sébastien Impeto, à Mbandaka. La délégation américaine, qui était conduite par le sénateur James Donzella, a promis d'investir dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement, de l'énergie, des transports, ainsi que des infrastructures.
Merci Camille pour la Minute Éco.
Et nous enchaînons tout de suite avec la page sport présentée par Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Élection du nouveau président de la FIFA, Michel Platini devrait annoncer sa candidature cette semaine.
Eh oui, le dénouement semble proche. Le patron de l'UEFA devrait indiquer d'ici la fin de la semaine son intention d'être candidat à la tête de la FIFA. Organisation embourbée dans un énorme scandale de corruption et de briguer surtout la succession du président démissionnaire Sepp Blatter. Les choses se sont nettement accélérées depuis l'annonce par Sepp Blatter de la date de l'élection. Ce sera le 26 février prochain. Le Suisse avait même eu une petite phrase lourde de sens durant sa conférence de presse ce jour-là, souhaitant une bonne chance à tous les candidats, y compris Michel Platini.
Et dans la rubrique transfert,
le Bayern Munich, champion d'Allemagne, officialise l'arrivée du Chilien Arturo Vidal en provenance de la Juventus de Turin pour un contrat de 4 ans. Le contrat est assorti d'une année supplémentaire en option, a précisé le Bayern lors de la conférence de presse de présentation du joueur. Montant du transfert, selon la presse allemande, 35 millions d'euros. Le latéral brésilien de Chelsea, Felipe Luis, a été revendu à l'Atlético Madrid un an après son arrivée à Londres. C'est ce qu'annonce le club champion d'Angleterre. Le défenseur de 29 ans a acheté une vingtaine de millions d'euros aux Colchoneros en 2014, n'a disputé que 26 matchs avec les Blues.
Copa Libertadores, première manche de la finale cette nuit.
Les Tigres de Monterrey au Mexique jouent à domicile le match aller de la finale face aux Argentins de River Plate. Dès lundi, les 42 000 billets avaient été vendus pour assister à cette rencontre entre deux équipes offensives au stade Universitario, surnommé le Volcan.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Cher Robin Dorsil et Nathalie Barge, en votre compagnie, place au dossier du jour. Premier thème ce soir, la tournée africaine du président des États-Unis.
Et oui, en marge de sa visite officielle en Éthiopie, Barack Obama a prononcé ce mardi le premier discours d'un président américain au siège de l'Union africaine. Que retenir de cette adresse que d'aucuns qualifient déjà d'historique? Un élément de réponse avec le professeur Serge Banyogeng, spécialiste de communication et enseignant à l'Université d'Ottawa. Il est joint par Jean-Roger Bion.
La première des choses qui est peut-être la plus importante, c'est le respect des constitutions. Il a pris l'exemple sur lui-même en expliquant qu'il pouvait se présenter et qu'il pouvait même être réélu, mais la constitution ne lui permettait pas, bien qu'il aime son travail. Il y a une antinomie entre président et président en vie. L'autre élément qui ressort aussi, qui est assez important, c'est mettre un terme à la corruption. Il appelait vraiment les dirigeants et les Africains à mettre un terme justement à ce qu'il appelait le cancer de la corruption. Dernier point, non de moindre, il a vraiment voulu l'avocat pour l'emploi et la croissance, mais surtout l'emploi par rapport aux jeunes.
Alors, a-t-il été concret par rapport à ceux qui veulent se maintenir un peu plus longtemps que le terme qu'il leur a donné? A-t-il préconisé un certain interventionnisme américain?
Il faut vraiment tenir en compte du fait que entre le discours et les actions, ce n'est pas forcément la même chose. C'est un peu la diplomatie. Et l'autre élément, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire? Parce que en général, en Afrique, les États-Unis n'ont pas l'ascendance qu'ils ont ailleurs. Cela est dû à ce qu'on a appelé la sous-traitance impériale. Et le terme est de Sadir Amin, il a été repris par d'autres auteurs aussi. C'est pas vraiment le style de Barack Obama, l'interventionnisme américain comme on l'a connu. Et je ne pense pas que ce serait souhaitable parce que le continent est en pleine mutation. Une intervention ne va rien changer. Mais je pense que l'élément le plus important aussi qu'il faut comprendre, et c'est un peu la substance du discours de Obama, c'est que les Africains doivent comprendre que ce n'est pas Obama, une personne qui vient les sauver. Et c'est eux-mêmes qui doivent se réapproprier les changements dans leur continent.
Il a parlé de développement et il a dit la tâche la plus urgente est de créer des opportunités pour les prochaines générations. Qu'a-t-il voulu dire concrètement?
D'abord, il faut vous dire, ramener un élément important. Après la fin de la guerre froide, quand même, les Américains avaient déjà commencé à revenir sur le continent à travers ce nombre d'initiatives comme l'AGOA, que vous connaissez bien, et d'autres initiatives. Mais ces initiatives sont insuffisantes pour insuffler la croissance parce que c'est vraiment les investissements directs qu'il faut aujourd'hui. Et si les Américains ont assez investi sur le continent, ce niveau d'investissement est largement inférieur au potentiel américain sur le continent. Il y a donc marge ici pour que les Américains investissent plus et qu'ils investissent avec les nouvelles technologies, qu'ils investissent davantage. Donc je pense que ce discours, s'il peut recevoir un écho auprès des investisseurs américains, serait vraiment beaucoup plus profitable pour l'Afrique.
Voilà, c'était Serge Banyogeng de l'Université d'Ottawa, joint par Jean-Roger Bian.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine au voyage de Barack Obama au Kenya et en Éthiopie. Le président américain a mis l'accent sur l'économie et la lutte contre le terrorisme. Qu'avez-vous pensé de ce voyage de Barack Obama? Venez en débattre sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum, 19h temps universel sur VOA Afrique.
En République du Congo, c'est demain que s'achève à Brazzaville le dialogue alternatif organisé par l'opposition qui a boycotté celui du président Denis Sassou Nguesso dans la localité de Sibiti. Les assises de Sibiti ont appelé à des réformes qui, de l'avis de l'opposition, ouvriraient la voie à un autre mandat du chef de l'État congolais. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction du pasteur Ntatan Toumi, délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Il a participé au dialogue de Sibiti, mais se dit solidaire des organisateurs du dialogue de Brazzaville.
Le dialogue que le président de la République a convoqué à Sibiti, nous avons participé. Pourquoi? Parce que nous avons une histoire particulière. C'est vrai que nous sommes à l'opposition. Mais compte tenu de l'histoire commune que nous avons eue avec le gouvernement, c'est-à-dire la paix que nous avons signée, nous avons pensé qu'on ne pouvait pas gérer un vide au niveau du dialogue national qui s'est tenu à Sibiti. Mais dans l'entretemps, puisque l'opposition ici au Congo-Brazzaville est plurielle, l'opposition qui s'organise aussi à Brazzaville,
nous sommes d'accord partis parce que, entre-temps, avant la convocation du dialogue de Sibiti, nous avons fait une déclaration commune avec les partis de l'opposition, parmi lesquels ceux-là qui sont en train de siéger à Brazzaville.
Le grand sujet de débat dans votre pays, c'est la modification de la Constitution. Qu'est-ce que vous en dites?
Comment voulez-vous, devant cette même Constitution-là, devant laquelle il a prêté serment en 2002 jusqu'en 2009, elle est bonne, on ne la reprochait pas de quelque chose. Le deuxième mandat de 2009 qui va jusqu'en 2016, là, on est presque à la fin du mandat et qu'on dise qu'on doit changer cette constitution. Nous pensons que cette constitution, on ne doit pas la toucher. Pourquoi? Parce qu'elle a permis que le président Sassou puisse régner pendant ces deux mandats. Donc, il faudrait que cette constitution reste là et que nous allions aux élections en 2016.
Les positions sont aujourd'hui figées. Est-ce qu'on s'achemine vers l'épreuve de force au Congo-Brazzaville?
La situation actuelle, quand même, est suivie par les métropoles, c'est-à-dire la France, les États-Unis. Et nous interpellons les grands pays justement de pouvoir nous aider dans ce qui se passe, parce que les choses sont claires. Il n'y a pas un conflit pour le moment, mais il faudrait que le président Sassou respecte la loi. C'est tout.
Tatane Toumi, délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre au Congo-Brazzaville.
La société civile africaine réagit à la demande des pays de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte de lever les sanctions contre Omar El-Béchir, le président du Soudan. Pour la coalition des ONG qui supportent la Cour pénale internationale, les 11 États membres de la Grande Muraille consacrent l'impunité dans leurs demandes. Eddy Issango a joint à Kinshasa un avocat de cette coalition, maître Jean-Marie Elé Lofélé.
C'est la consécration de l'impunité. C'est là inadmissible. Le Sénégal, qui est dans cette conférence-là, est membre de la Cour pénale internationale et le Sénégal a l'obligation générale de coopérer avec la Cour. Et le Sénégal est le premier État parti africain à avoir ratifié les statuts de la Cour pénale internationale. De deux, même pour les faits qui ont été commis antérieurement à la naissance de la Cour pénale internationale, le Sénégal organise les chambres africaines de Dakar pour juger le président Senabri. Donc, si le président Omar El-Béchir va en Mauritanie, c'est tout simplement parce que la Mauritanie n'a pas ratifié les statuts de la Cour pénale internationale. Donc, c'est normal. C'est ce qui fait que, par exemple, pour l'Afrique du Sud, il y avait des problèmes. Omar El-Béchir devait fuir par un aéroport militaire parce que il y a eu des pressions à l'intérieur de l'Afrique du Sud. On exigeait que l'Afrique du Sud l'arrête et coopère avec la Cour pour le livrer.
Les pays membres de l'Agence panafricaine de la Muraille Verte n'ont pas précisé de quelles sanctions il s'agissait. Il peut ne pas s'agir de poursuites de la CPI, mais ces pays ont exprimé leur solidarité à l'endroit du Soudan et de son président pour demander que les sanctions soient levées.
Ça, c'est un appel qui consacre l'impunité. Et je vous dis que toute la société civile africaine estime qu'aujourd'hui, l'impunité des chefs d'État n'en a plus de mise. Et tout en respectant les droits de la défense, on ne peut pas consacrer l'impunité pour le président Omar El-Béchir. Le minimum qu'ils demandent peut-être, c'est de suspendre sa poursuite jusqu'à ce qu'il termine son mandat. La Mauritanie n'est pas liée parce qu'elle n'a pas ratifié les statuts de la Cour pénale internationale. Mais l'Union africaine lutte contre l'impunité.
Son président actuel, le président Robert Mugabe, incite les pays africains à se retirer de la CPI parce que c'est une cour contre les pays africains ou les pays sous-développés.
Bon, ça c'est son point de vue. Ce n'est pas le point de vue de l'Union africaine. L'Union africaine veut seulement, en créant les chambres africaines de Dakar, qu'il y ait une sorte de complémentarité. Ça veut dire que nous devons être à mesure de créer une juridiction pénale permanente africaine pour que cette juridiction puisse juger les chefs d'État africains ou les autorités africaines au lieu de les envoyer en Europe.
Maître Jean-Marie Elé Lofélé de la Coalition africaine pour la Cour pénale internationale.
Ce Selon les chiffres du ministère de la Santé, au Mali, 27% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans, ce qui entraîne de multiples conséquences pour ces filles mineures. Plusieurs centres de santé de la région de Kayes au Mali font face à des grossesses précoces et forcées chez des filles de 11 à 15 ans. Un reportage de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Dans cette région, le mariage forcé ou obligatoire est devenu une tradition. C'est pourquoi des jeunes filles de 11 ans sont données en mariage et tombent enceintes, comme la petite Binta, âgée de 11 ans. Jawara Danjo Sidibé, sage-femme.
Arrivée ici, nous on a constaté déjà que l'utérus voulait s'ouvrir. Nous on a fait immédiatement la césarienne. L'enfant est né vivant mais mort-né apparent. Quelques minutes après, l'enfant est décédé. Et puis, les suites de post-opératoire se sont compliquées à des suppurations parce qu'elle avait déjà fait des complications avant d'arriver chez nous ici.
Elle devient ainsi l'une des victimes du mariage précoce dans la région de Kayes, où 27% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans. Docteur Sédou Diallo, médecin-chef.
En 2015, nous avons recensé deux cas. Une fille de 12 ans avec une grossesse. Une fille de 11 ans avec une grossesse. Dans un premier cas, elle est venue déjà en train d'expulser. Et nous n'avons que constaté. Donc nous avons aidé à l'accouchement. Les deux cas ont tenté des accouchements à domicile. Les deux grossesses se sont soldées par des morts-nés.
Selon les chiffres du ministère de la Santé, 74% des femmes de la région de Kayes sont mariées avant l'âge de 18 ans. Sangare Aissata Sangare, de la direction régionale de la promotion des femmes de Kayes.
Les gens disent que vraiment, si ils ne marient pas les filles à un âge aussi jeune comme ça, que lorsque la fille va grandir et qu'elle va faire les péchés, qu'ils seront punis par le Tout-Puissant Allah. Le phénomène persiste à nos jours. Ensuite, il y a l'extrême pauvreté, parce que la fille, à un certain âge, elle devient une charge pour la famille. Donc, ils sont obligés de se débarrasser de ses enfants pour les donner à d'autres familles, afin d'amoindrir un peu les charges de la famille.
Ces mariages précoces ont des conséquences pour les fillettes, surtout en cas de grossesse. Docteur Sédou Diallo, gynécologue.
Les conséquences les plus couramment rencontrées à notre niveau, c'est des morts-nés chez les fœtus. Et les conséquences les plus redoutables chez la maman que nous rencontrons très souvent à notre niveau, c'est des fistules vésico-vaginales qui amène la société à rejeter la femme parce qu'il y a des fuites d'urine chez ces dames-là. La même société qui a occasionné leur retrait de l'école, qui a occasionné aussi ce mariage précoce, c'est la même société qui rejette ces dames-là.
Et ce n'est pas tout. Jawara Dandia Sidibé, sage-femme.
Ça peut donner à des femmes qui ne vont plus accoucher et puis qui ne vont plus avoir envie des hommes. Ils vont avoir des traumatismes psychologiques.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débats. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, à la une ce soir.
Dans un discours au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, le président américain a fait l'éloge de la démocratie pour tous, non sans aborder l'épineux cas du Burundi.
En Libye, un tribunal contrôlé par les islamistes a condamné à mort un fils de Muammar Kadhafi et 8 dignitaires de l'ancien régime.
La lutte contre Boko Haram bat son plein dans la région du lac Tchad et dans l'extrême nord au Cameroun.
En République du Congo, c'est demain que s'achève le dialogue alternatif de l'opposition qui a boycotté celui du président Denis Sassou Nguesso.
L'Iran et l'Union européenne se disent prêts à mettre en œuvre les termes de l'accord sur le nucléaire iranien, tandis qu'à Washington, le secrétaire d'État John Kerry a exhorté le Congrès à ne pas rejeter l'accord de Vienne.
Et reprise des raids aériens de l'Arabie Saoudite au Yémen, mettant fin à la trêve humanitaire.
Et voilà, la mise en onde de l'émission était assurée par Georges Léonard Sagnou, assisté de Souleyman Tarawale à la console. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com. Les infos dans un instant.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.